vous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle série de début d'année, Suivre Jésus. Ce matin, nous allons le suivre dans le miraculeux. Suivre Jésus dans le miraculeux. Nous allons regarder ensemble à l'Évangile de Jean, le 5e chapitre. Tournez avec moi dans vos Bibles à Jean, chapitre 5, versets 1 à 5. Bienvenue à vous ici à Longueuil. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent par Facebook Live, par streaming, sur notre site, dans la prochaine année, très bientôt aussi, en multisite. Plusieurs églises sont inscrits, ont demandé à se joindre à nous par multisite. On est en train d'organiser toute la dimension technique pour le faire. Ça va prendre place en 2019. On va vous annoncer les différents endroits au Québec qui vont devenir maintenant des sites de Nouvelle Vie. On aimerait aussi vous inviter à vous joindre, à vous abonner à notre chaîne YouTube, où vous y retrouverez tous nos messages, toutes les productions, tous les vidéos, témoignages, vidéos, messages de tous les différents communicateurs de Nouvelle Vie. Vous recevrez un courriel pour vous avertir de nos nouveautés et vous pouvez également nous suivre en YouTube Live le dimanche matin à 9h30, heure du Québec. Nous croyons notre message ce matin, suivre Jésus dans le miraculeux et à Nouvelle Vie, nous croyons dans le miraculeux. Nous croyons que Jésus fait des miracles encore aujourd'hui. Nous croyons que sa maison est une maison de prière et une maison où Dieu accomplit le miraculeux. Si vous croyez ça ce matin, voulez-vous applaudir si vous croyez que Jésus agit encore aujourd'hui? Nous croyons au miraculeux. Si vous êtes assis à Nouvelle Vie, vous êtes assis à côté de personnes par centaines qui ont connu, dans un moment ou un autre, une dimension ou une autre de leur vie, ont connu le miraculeux. Des personnes comme Naomi et Sébastien, avec leur petit garçon Mathis qui avait été atteint d'une leucémie, ou comme des parents comme Jeannin et Joël avec la petite Victoria. Les deux maintenant en rémission, les deux aucune trace de cancer, les deux marchant sous la main de guérison de Dieu. Nous croyons au miraculeux. Vous êtes assis à Nouvelle Vie, vous êtes assis à côté de Patricia, qui a connu un miracle qui est de guérison, qui était à ce moment-là psychologique, qui était émotionnel, qui était spirituel. À l'âge de 14 ou 15 ans, avait fait une deuxième tentative de suicide, mais Dieu l'a restaurée, l'a guérie. Elle est maintenant une mère de famille elle-même. On est tellement fiers d'elle. C'est ma fille adoptive avec son mari Eric, avec nos deux petits-enfants. Maintenant, un miracle de restauration spirituelle. Pas un miracle temporaire qui change la direction d'une vie pour toujours. Vous êtes à Sainte-Nouvelle-Vie ce matin, nous croyons au miracle. Le miracle, vous pouvez être assis à côté, elle est ici ce matin, de Monique Lépine, la maman de Marc Lépine, qui a vécu un miracle de restauration, presque de résurrection, alors que ses deux enfants se sont enlevés la vie, alors qu'on a les tragédies avaient mis un poids de honte et de peine terrible sur elle. Mais non seulement Dieu l'a-t-elle guérie, un miracle pour qu'elle survive, mais un miracle alors qu'aujourd'hui et depuis des années, elle est une voix qui va raconter son témoignage partout à travers le monde. Monique est une des femmes les plus inspirantes que je connais. Quel que soit ce que tu as traversé comme épreuve horrible, nous croyons au miracle, à Nouvelle Vie et à Dieu qui change, transforme, libère. Des miracles comme celui, nous croyons aux miracles comme celui, vous êtes assis à l'église ce matin, vous êtes assis à côté de Serge Cusson, qui à un moment de sa vie avait l'aiguille de cocaïne dans le bras, les pensées suicidaires, toxicomanes jusqu'à chaque fibre de son être, et Dieu, il a connu le miracle, non seulement d'être libéré, non, pas juste un miracle, arrêter de consommer, non, un miracle qui a fait de lui un homme neuf, maintenant depuis plus de 20 ans, sobre, un père de famille, un mari, un homme modèle dans notre église, quelles que soient les chaînes qui te tiennent, toi ou quelqu'un près de toi, nous croyons au miracle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit oui? Croyons au miracle! Nous croyons au miracle. Si vous êtes à la Nouvelle Vie ce matin, vous êtes assis à côté de gens qui ont connu le miracle, des personnes comme Monique, qui avait une éducation extraordinaire, qui se mouvait dans les hautes sphères des finances. Et elle racontait dans son témoignage qu'elle était dans une tour à Toronto, son MBA, sa maîtrise en haute finance, et pourtant un désespoir dans son âme, dans son mariage, dans sa vie. Regardait par la fenêtre de la tour à Toronto avec la pensée de sauter en bas. Elle a été non seulement guérie, non seulement seulement relevé de tous ces épisodes dépressifs. Ça fait des années maintenant que Dieu l'a restauré, l'a fortifié, restauré son mariage. Elle et Alain sont un couple extraordinaire dans notre église ici. Elle est une femme d'inspiration, j'aimerais dire, à un couple qui a besoin de l'entendre, à une famille qui a besoin de l'entendre, à des parents qui ont besoin de l'entendre. Nous croyons que Dieu fait des miracles relationnels, des miracles de restauration, de réconciliation et de rétablissement. Quelqu'un devrait dire amen. Nouvelle vie, vous êtes pas pire, mais en ce dimanche, alors que nous sommes le dimanche du Super Bowl et que ce soir, pour un ballon dans les airs, les gens vont faire des ovations qui vont aller de... On s'arrête un instant ce matin pour adorer, remercier, honorer, glorifier, célébrer le Dieu des miracles. Ah oui, mais Pasteur Claude, moi, là, la situation est... la situation, si je peux le dire de même, la situation est sur un lit de mort. C'est exactement l'endroit où Jacques Bergeron était en 1999. 2000, il avait 64 ans, un cancer qui était tellement, tellement féroce. Le médecin avait dit à sa mère, c'est comme si Jacques est dans une toute petite barque au milieu d'un océan en tempête, mais la main de Dieu était tendue. Je me souviens, lorsqu'on est arrivé à l'hôpital, on a prié avec lui. Non seulement a-t-il été rétabli, on parle de maintenant, ça fait 18 ans de ça, d'à peu près de 63 à 80, 81 ans, en parfaite santé, plein de force. Une de nos joies ici, c'est d'amener M. Bergeron à 80 ans, faire une journée de travail avec des ouvriers de 20 ans. Puis à 2 heures de l'après-midi, les ouvriers de 20 ans veulent lâcher et M. Bergeron continue encore. Je vous parle d'une maison Nouvelle Vie. Vous êtes là pour les premières fois, vous nous visitez, vous vous êtes joints, vous êtes un endroit qui croit au miraculeux. C'est la maison du miraculeux ici. Parce que Jésus est ici. Alors ce matin, nous allons regarder ensemble dans Suivre Jésus dans le miraculeux, la maison et le maître du miraculeux, le mouvement du miraculeux et le moment du miraculeux. Le moment du miraculeux. Peut-être avez-vous besoin d'un miracle ce matin. Un miracle dans votre famille, un miracle avec vos enfants, un miracle financier, un miracle à votre travail, un miracle relationnel, un miracle dans vos émotions. Un miracle dans ce que vous ressentez, dans vos pensées, dans votre cœur. Un miracle de guérison physique, quel que soit un miracle secret d'une souffrance que vous seul connaissez. Un miracle pour vous-même ou un miracle pour quelqu'un près de vous. Vous êtes au bon endroit parce que ce matin, nous allons lire ensemble quelques versets d'un moment extraordinaire de la vie de Jésus, du ministère de Jésus. Nous allons commencer avec la maison et le maître du miraculeux. Jean chapitre 5 et le verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau a été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Et là se trouvait un homme qui avait été malade, qui était malade, qui était affaibli depuis 38 ans. La maison et le maître du miraculeux. Lorsque vous lisez des mots comme « après cela », ça relie avec tout ce qui prend place auparavant. Lorsqu'on regarde au premier chapitre de l'Évangile de Jean, chapitre 1 à 4, Jésus est établi. Jésus est présenté comme on l'a chanté ce matin. Il est établi comme le Créateur éternel. Il est présenté comme le Messie. Il est présenté comme le Sauveur, le Juge, le Tout-Puissant. Il est celui qui renverse toutes les barrières. Il renverse toutes les barrières, les préjudices, les discriminations, le favoritisme dans une même conversation, même chapitre. Il va parler avec une femme samaritaine. Il abat tous les préjudices. Une femme qu'aucun juif bien-pensant de l'époque aurait même regardé ou considéré à cause de qui elle était, mais à cause aussi de son arrière-plan. Jésus, à elle, va révéler le message de qui, la profondeur, la richesse de qui sont les vrais adorateurs. Il est en train d'abattre des murs de discrimination, des murs de toutes sortes de préjudices. Et dans un même souffle se tourne et il nous met en garde contre toute forme de favoritisme alors qu'il parle avec Nicodème, un des docteurs de la loi que tout le monde pliait devant lui, et il lui dit directement, Nicodème, toi tu enseignes la nation au complet et tu ne sais même pas que tu dois naître de nouveau. Et là, il prononce, et il prêche, et il guérit, chapitre 1, 2, 3, 4 et 5, et là, des phrases commencent à émerger, des multitudes le suivaient, et non seulement des multitudes le suivaient, mais il disait, on n'a jamais personne n'a parlé, jamais personne n'a guéri comme lui, l'autorité qu'il a. Et le texte nous dit qu'il y a eu une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Ils avaient trois grandes fêtes dans leur calendrier religieux qui existe encore aujourd'hui pour les trois grandes célébrations, rassemblements où les gens venaient de partout à travers la diaspora juive pour venir faire ces pèlerinages. Il y avait la Pâque, il y avait la Pentecôte, il y avait la fête des tabernacles. Nous ne savons pas laquelle, mais Jésus, depuis son enfance, observait la loi et il vient à cette fête alors que des milliers sont là. Il arrive à Jérusalem à ce qui est appelé la porte des brebis et de la piscine de Bethesda. Lorsque vous voyez Beth quelque chose dans les textes bibliques, Beth en hébreu, c'est simplement la maison de. Alors vous avez Bethléem, la maison du pain, Bethel, la maison de elle, de Dieu. Bethesda, c'était la maison de la miséricorde, la maison de the house of mercy, la maison de la miséricorde, la maison de la bonté, la maison de la guérison. Et Jésus entre par la porte où ils offraient depuis des siècles des sacrifices annonçant la venue de l'agneau de Dieu qui va venir sauver le monde. Et lui entre à l'endroit de souffrance extrême et il entre dans la maison et il nous rappelle qu'une église, l'Église suprêmement est appelée à être un endroit où nous venons ensemble rencontrer Jésus et expérimenter le miraculeux. L'Église, c'est la maison de la miséricorde, du pardon, de la grâce. L'Église n'est pas une salle de montre pour gens parfaits. Pas une salle de trophées de gens tout shiny, tout beau, tout parfait. L'Église n'est pas un tribunal. C'est pas un lieu où on passe des sentences les uns sur les autres. C'est pas un lieu où tu viens être jugé. L'Église n'est pas un club de bénédiction exclusif pour les membres. Elle n'est pas une société secrète fermée sur elle-même avec des codes, des langages que personne d'autre ne comprend, excepté en nous-mêmes. L'Église, c'est un hôpital spirituel. L'Église, c'est l'endroit où des êtres humains viennent pour être soignés, pour être guéris, pour être relevé, pour être aimé, pour être pardonné et être ressuscité. Et c'est intéressant parce que c'était ce lieu-là, les archéologues ont découvert, près de l'église Sainte-Anne, moi je l'ai visité lorsque je suis en Israël, près de l'église Sainte-Anne, ils ont creusé et ils ont découvert, les archéologues ont découvert littéralement tout le lieu que la Bible décrit de Bethesda, les cinq portiques, la piscine, l'inscription qui prenait place. Et ça, on appelle ça les « oups des moqueurs ». Il y a des oups des moqueurs, parce que pendant des siècles, ceux qui attaquaient la Bible disaient, c'est impossible ça, un endroit comme ça n'a jamais existé. Et là, tout à coup, les archéologues creusent et ils bougent les pierres, et là, il y a ça. Et c'est comme ça continuellement en passant. Pendant longtemps, à travers les âges, ceux qui attaquaient la Bible disaient, il y avait toutes sortes de faits que, par exemple, tout simplement que nous lisons dans les Écritures qu'il y a un Ponce Pilate qui a, et pendant longtemps, il n'y avait aucune trace historique de Ponce Pilate. Alors, on se moquait de la Bible, c'est complètement en marge de l'histoire, ce document, et jusqu'à ce qu'on se mette à trouver à Césarée et à plusieurs autres endroits des plaques historiques qui parlent de Ponce Pilate qui avait été gouverneur, exactement décrivant tels que les écrits de la Bible. Rabbi Zacharias a déjà écrit un livre, docteur Rabbi Zacharias, un érudit extraordinaire, a écrit un livre qui appelle les 300 oups de ce siècle. Que depuis 75 ans à 100 ans, il a répertorié 300 faits que pendant longtemps les gens disaient, qui attaquaient la Bible disaient ça, c'est absolument impossible, jusqu'à ce que l'archéologie vienne le prouver. Après tout, c'est vrai. Et c'est intéressant parce que Jésus a dit, si les hommes ne me louent pas, les pierres vont le faire. Et les archéologues bougent les pierres et nous rappellent les oups qui nous rappellent que le Jésus du miraculeux, il est ici encore aujourd'hui. Ce qui est là est véritable et promis et il est pour moi et il est pour toi. Dites à quelqu'un près de vous, oups, la Bible est vraie. Dites ça à quelqu'un près de vous. Lorsqu'on arrive à la maison, la mission de la maison de Dieu, qui est d'être ce lieu du miraculeux, une maison du miraculeux, nous arrivons à un verset particulier qui est un des plus controversés du Nouveau Testament. Le verset 4 qu'on a lu ensemble, où on parle d'un ange qui descendait, qui agitait l'eau de la piscine, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Et il y a, dans les premiers textes originaux, ce verset-là n'est pas trouvé, et par la suite il est trouvé, puis il y a une partie de la théologie. Alors, il y a un grand débat des encyclopédies, ça dépasse, où on discute mythe et mystère. Est-ce que c'est vrai, ou est-ce que Jean rapporte l'espèce de mythe qu'il y avait à l'époque? Certains d'entre vous diraient, comment est-ce qu'on peut penser qu'un ange vient brasser l'eau, etc., etc.? Faut que vous rappeliez comment passe ça encore aujourd'hui? Une source d'eau qui jaillit, et puis tout à coup, les gens sont guéris. Nous sommes, à cette époque-là, dans les temps anciens, des temps primitifs de grandes superstitions et mythologies mystiques. Ça abondait de tous les côtés. Mais il y a une chose qui est intéressante, c'est que Jésus ne commente pas sur « est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est un mythe, est-ce que… » Jésus ne commente pas là-dessus. Et si Jésus arrive à l'homme, il n'a pas dit « ben oui, étant donné que l'ange… » fait aucun commentaire là-dessus. Si Jésus ne commente pas là-dessus, parce que l'autre ne le fera pas non plus. Dites « Amen ». Il y a quelque chose qui est intéressant, par exemple, mythe ou message. Il y a un message dans tout ce récit. Une question ce matin. Un message pertinent pour nous aujourd'hui. Une question ce matin. Êtes-vous assis à attendre une guérison au bord de la mauvaise piscine? Êtes-vous assis à attendre une guérison au bord de la piscine de mysticisme déresponsabilisant? Ça va arriver un jour. Êtes-vous assis au bord d'une mauvaise piscine, attendant une guérison, une piscine de déni ou de blâme, d'apitoiement ou d'offense ou de non-pardon? Je suis assis là à attendre une guérison, mais je suis dans le non-pardon. Êtes-vous assis au bord, attendant une guérison au bord d'une mauvaise piscine, d'idées de grandeur de main, la piscine des idées de grandeur de demain qui m'empêchent de m'emparer de ce que Dieu a pour moi aujourd'hui? Est-ce que je suis assis d'une piscine de l'entêtement? Parce que Dieu n'a pas fait exactement le quand et le comment vous pensiez. Et vous êtes maintenant assis sur une piscine d'endurcissement, d'entêtement, de déception, attendant un résultat différent peut-être, alors que vous n'êtes pas prête à changer quoi que ce soit. Il y a un message dans Jésus qui arrive à la piscine de Bethesda. Le message, alors qu'on nous dit que les malades, il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, des paralytiques. Ils sont bien réels, bien au-delà de leurs conditions physiques. Ils représentent, ils sont une représentation de la condition humaine de vous et de moi qui arrivons, qui sont ici dans différents aspects de nos vies avec des éléments de faiblesse, avec des événements, des dimensions d'aveuglement où je ne vois pas ce que Dieu a pour moi, je ne vois pas ce que j'aurais besoin de changer, où je suis boiteux, où des circonstances de la vie m'ont paralysé, j'ai besoin de lui. Cette maison, la maison et le maître du miraculeux sont pour nous aujourd'hui, parce qu'encore aujourd'hui, il y a cet homme qui arrive et ces personnes qui souffrent dans un monde du chacun pour soi. L'image est horrible de gens qui se poussent et qui se bataillent pour essayer d'avoir un petit morceau de la piscine, mais personne pense à l'autre, chacun pour soi. Et nous vivons, il y a des gens qui sont ici aujourd'hui, vous dites, dans mes circonstances, à travers tout ce que j'ai traversé, j'ai été laissé, j'ai été abandonné, j'ai été trahi, il y a personne pense à moi. David, l'homme selon le cœur de Dieu, a dit, « No one cares for my soul », personne ne se préoccupe de moi. La maison est réelle pour nous aujourd'hui, parce que l'agneau de Dieu fait son entrée par la porte du sacrifice et il vient annoncer, ça ne sera plus un des sacrifices qui annonce, je suis là maintenant, je suis l'agneau de Dieu, je suis vivant et j'arrive face à face avec toi, une personne à la fois, celui que personne n'a pu aider. Cet homme que personne n'a pu aider depuis 38 ans va découvrir celui qui n'abandonne jamais personne. Celui qui n'a personne à sembler pu aider va rencontrer, arrive face à face avec celui qui n'abandonne jamais personne. Le miséreux va rencontrer le miraculeux. Celui qui pense qu'il est trop tard va découvrir le Dieu qui dit non, c'est ici, c'est aujourd'hui, au-delà de tous les programmes, au-delà de tout ce que nous faisons, Nouvelle Vie, c'est un Bethesda. Nous sommes la maison où Jésus, face à face, vient rencontrer les êtres humains qui lui ouvre leur cœur et par sa puissance, il change des vies. Sans, comprenez bien, que sans la présence et sans l'action surnaturelle de Jésus, on est juste un endroit avec 5 portiques de gens souffrants qui entrent souffrants et qui sortent souffrants. S'il y a seulement du rituel, seulement du légalisme, il n'y a rien qui va changer. Mais alors qu'on est ici ensemble, nous nous rappelons, après ces 25 années d'existence, que nous sommes vivants parce que Jésus est vivant au milieu de nous. On vient rencontrer celui qui guérit. Je vais vous dire amen. Il y a un mouvement. Un mouvement, la maison du miraculeux devient réelle par le mouvement du miraculeux. Remarquez, au chapitre, au verset 3, ceux qui sont malades, ceux qui boitent, ceux qui sont paralysés, ceux qui sont aveugles, ils attendent un mouvement de l'eau. Regardez bien le mouvement, le véritable mouvement. Le véritable mouvement vers le miraculeux, pas le faux. Le véritable, pas le mystique ou le superstitieux. Le véritable mouvement vers le miraculeux est décrit à partir du verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Intéressant que le mot « malade » qui est là, dans le grec, est le même mot qui est utilisé pour décrire quelqu'un qui est sans force, quelqu'un qui est à bout, quelqu'un qui est dans un état de faiblesse. Dans Romains chapitre 5, au verset 6, l'apôtre Paul dira « Notre espoir ne nous trompe pas. Nous ne serons jamais déçus parce que nous avons auprès par Jésus, nous avons par la grâce accès à ce qui nous garde, à celui qui nous garde ferme. Car lorsque nous étions sans force, lorsque nous étions malades, sans force, le même mot, lorsque nous étions faibles, affaiblis, Christ a donné sa vie pour ceux qui l'ignoraient, qui le méprisaient. Alors, il y a un homme qui était là, qui était malade. Une question ce matin. S'il y avait une chose dans votre vie, il y a une chose qui était une sphère de faiblesse en moi, il y a une sphère qui est faible en moi, il y a quelque chose qui a besoin d'être transformé en moi. Qu'est-ce que ça serait? Si vous êtes ici ce matin et vous dites, oh, je ne sais pas, je pense que, demandez à votre femme, elle va vous le dire, elle va vous l'expliquer. Demandez à vos enfants, demandez à vos amis, il y a une liste de personnes qui sont capables de vous dire ce que ça pourrait être. Mais ce matin, pour ceux qui sont sans force, il y avait un homme qui était là, et ça fait longtemps, et il est sans force. Là se trouvait un homme sans force depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Quelle question. On va y revenir. « Veux-tu être guéri? » Le malade, le sans force, répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Et aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et il marcha. 38 ans, 5 portiques. Les commentateurs nous parlent qu'il pouvait y avoir entre 3 et 5 000 personnes qui étaient là. Un lieu de souffrance, un lieu de saleté, un lieu où des gens avaient des maladies incurables, un par-dessus, les empilés les uns par-dessus les autres. Je pense à ce moment où j'avais été apporter la parole en Côte d'Ivoire, dans la région de Boaké, dans un pénitencier. À sécurité hyper maximum. Et lorsque je suis arrivé là-bas, de me retrouver dans une chaleur suffocante dans une cour extérieure avec 1000 hommes qui étaient là, qui portaient seulement comme un maillot autour de la table, des hommes nus, pas de souliers, pas de vêtements, juste comme un maillot de tous les âges qui étaient là, des hommes qui étaient, certains d'entre eux, lépreux, sidatiques, fiévreux, avec des pustules, affamés, parce qu'à moins que quelqu'un t'amène, il n'y avait aucun système de nourriture dans la prison, quoi que ce soit, à moins qu'il y ait quelqu'un de la famille qui t'amène la nourriture, tu n'avais rien à manger ou à boire. Et c'était un moment, je me souviendrai toujours, parce qu'en sortant de la prison ce jour-là, après avoir prêché, en sortant de la prison ce jour-là, j'ai été saisi de voir 8 hommes. On les avait mis nous, on avait enlevé leur maillot. 8 hommes, je vous avais compté, qui étaient couchés sur le ciment. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une émeute. 8 morts, 8 cadavres. Est-ce qu'il y a eu une émeute? Est-ce qu'il y a eu... Non, c'est à peu près la moyenne ici, 8 à 10 par jour qui partent. Un endroit, c'est dans un endroit comme ça que Jésus arrive. Et Jésus arrive au milieu de tout ça. Et c'est simplement pour rappeler à chacun d'entre nous que quel que soit ce que tu crois être l'impossible, le fini, quel que soit ce qui sent pas bon, quelle que soit l'horreur, quelle que soit l'inimaginable de ta situation, c'est là que pendant que le festival religieux prenait place autour, Jésus est arrivé pour le festival, mais il est allé à l'endroit où personne ne voulait aller. Il veut aller dans ta vie à l'endroit où toi-même, tu penses qu'il n'y a plus personne qui peut aider pour aller apporter la guérison et apporter sa consolation. Et alors que Jésus arrive cet endroit-là, il va poser une question hallucinante. Vous savez que Jésus est seulement compassion, il est seulement amour, mais il pose à l'homme la question, 38 ans, paralysé, veux-tu être guéri? Est-ce que c'est une question, une sorte de question, c'est ça, bien sûr qu'il veut être, pourquoi est-ce que tu poses la question? Bien sûr qu'il veut être guéri! Pourquoi Jésus n'est seulement compassion et amour. Veux-tu être guéri? Est-ce que c'est une question cruelle? Non. C'est une question réelle. C'est une question actuelle. C'est une question spirituelle. Et c'est une question qui va déterminer le surnaturel. Veux-tu être guéri? Remarquez que l'homme n'a pas répondu oui. Veux-tu être guéri? C'est sûr qu'il va dire oui, 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 je le veux. Non, réponds pas ça. Réponds pas ça. Et là, Jésus nous introduit à des clés tellement importantes dans le chemin, dans le mouvement. Il y a une maison de guérison, il y a un maître de la guérison, c'est Jésus. Mais le mouvement vers la guérison, des choses qu'on doit enlever, des obstacles qui doivent être enlevés, des choses qui doivent être comprises pour que le mouvement devienne, s'amplifie vers le miraculeux. Quatre dimensions, les excuses, la dimension d'excuses, la dimension d'effort, l'entourage, l'endurcissement dans le chemin, dans le mouvement, bloquant parfois le mouvement du miraculeux, les excuses. Remarquez que l'homme n'a pas dit oui, il n'a pas répondu oui, il a répondu avec des excuses. J'avais personne pour me mettre dans la piscine. Il est dans une dimension de blâme. C'est à cause de mon passé que je suis comme ça. Je suis à cause de mon... J'ai été victime d'injustice. D'autres ont passé avant moi. Je n'ai pas eu, c'est en termes modernes, c'est ma famille, c'est les gens autour de moi, c'est mon passé. Et la Bible nous dit que Jésus le voit, Jésus le connaît, et Jésus l'appelle, et Jésus lui demande, « Veux-tu être guéri? » Il me voit ce matin. Jésus connaissait tout son 38 ans. Jésus, surnaturellement, savait toute l'histoire de cet homme. Il me voit, il me connaît mieux que moi-même. Il me demande ce matin, est-ce que je veux être guéri? Est-ce que je veux? Est-ce que tu veux vraiment? Après plus de 35 ans de pastorat, cette question, elle est légitime. Parce que pour toutes sortes de raisons, il y a des gens qui, depuis tellement longtemps, ont vécu dans l'anormalité que l'anormalité est devenue leur norme. Leur captivité, leur dépendance, la façon dont ils sont. Je suis là-dedans, quoi que ce soit d'autre, me fait peur. C'est pas possible pour moi d'en sortir. Des gens qui sont assis à l'église et qui vont dire que lorsque le message comme ce matin, ils vont dire oui, je crois. Oui, je crois à des. Vous regardez une vidéo de pardon absolument hallucinant. La personne qui pardonne d'une manière hallucinante et Dieu restaure le mariage et Dieu restaure le couple. Et vous dites oui, je le crois. Ça c'est bon, je le crois, mais pas pour moi, pas dans ma situation. Je crois que si je donne à Dieu, oui, je crois à la générosité de Dieu, à la provision de Dieu, si je donne à Dieu, il va. Ça, je crois ça, que ceux qui donnent à Dieu vont être bénis, mais pas moi. Je crois que les gens peuvent changer, être des nouvelles créatures, mais pas moi. Je crois que, je crois ça, Dieu peut faire des miracles, mais pas dans ma vie, pas dans ma situation à moi. L'Esprit de Dieu me pousse ce matin, je prie que par l'onction, parfois des forteresses, dans son cas, c'était 38 ans, mais des forteresses de longue date vont être brisées en toi. Tu n'es pas l'exception. Tu as accès à toute la grâce, toute l'action, toute la puissance, toute l'onction, toute la libération que Dieu offre. C'est pour toi aussi. Je vais applaudir avec moi et dire, c'est pour toi aussi. Veux-tu être guéri? Les excuses. Blâmer le passé. Blâmer ceux qui m'ont blessé. Blâmer mes parents. Blâmer mes patrons. Blâmer mes enfants. Blâmer mes amis. Blâmer ma famille. Blâmer mes enfants. Blâmer la société. Blâmer l'Église. Blâmer les chrétiens. Blâmer les pasteurs. Blâmer Dieu. J'ai souri récemment en regardant un témoignage d'un homme. Bryson DeChambeau est un golfeur de la PGA et un champion. Un des jeunes les plus prometteurs. Il a gagné déjà des tournois majeurs. Il y a des joueurs de la PGA qui font leur carrière entière sans gagner le majeur. Lui a gagné des majeurs. C'est un exceptionnel. C'est un doué. Puis en plus de ça, c'est un chrétien engagé. Il parle de sa foi. Il est engagé dans les œuvres humanitaires. Puis lui, il dit, moi, je joue au golf pour glorifier Dieu. Et à travers ça, ça me donne une plateforme pour parler de Dieu. Et l'année passée, alors qu'il y avait eu un début d'année formidable, puis un début de tournoi formidable, il a fait quelque chose. Ça a donné la consolation à toutes les golfeurs du monde, tous les hommes et femmes qui sont ici qui golfent. Le golf est un sport où il y a des moments où tu te détestes, des moments de souffrance intense, des moments... Et DeChambeau a eu une ronde où il a envoyé sa balle dans l'eau, ce qui a fait plein d'années. Et après ça, il s'est en allé dans le champ de pratique. Puis habituellement, les professionnels sont très « Oui, ça va aller mieux demain. » Mais lui, on va juste montrer une vidéo. Il n'y a pas de son, ça dure 40 secondes. Faites jouer la vidéo, les gars. Brian DeChambeau, ça c'est... Et les caméras l'ont filmé. Il est sur le champ de pratique. Sa ronde est finie et il souffre. Il est complètement... Moi, lorsque je le regarde, là, tous les golfeurs comprennent exactement ce que ce gars-là vit. Il fait une shot de pratique après, il n'est pas capable. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis plus capable de jouer au golf. Et même, dans un article après ça, j'ai vu une interview où il a expliqué comment il a passé sa journée à un poste chrétien. Puis il a dit, j'étais tellement découragé, moi, que j'ai commencé à dire à Dieu, « Seigneur, pourquoi tu me bénis pas? Pourquoi tu me bénis pas? Moi, je fais ça pour toi. Je fais ça pour te glorifier. » Et il dit, j'ai pas entendu de voix audible. Puis je me plaignais à Dieu. Et je regardais la vidéo de moi-même en prenant la tête. Puis le monde entier qui se moquait de moi un peu. Puis je disais, « Seigneur, pourquoi tu me bénis pas? Pourquoi je joue si mal? Seigneur, une balle dans l'eau. » Et il dit, j'ai entendu la voix de Dieu. C'est pas une voix audible. La voix de Dieu qui dit, « C'est pas moi qui ai envoyé ta balle dans l'eau. C'est pas moi qui fais des mauvais coups. D'où... » Et même Dieu a dit, « Moi, je suis un excellent golfeur. » Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est... Dieu lui a dit, « Do the work. » Lui a ramené à ses débuts juste quelques temps auparavant. Le temps, le travail, la pratique, ce qui devait être fait. Ben, ne me blâme pas pour ce que toi seul peux faire dans ta vie. Arrête de blâmer, c'est pas lui, c'est un autre, c'est un autre. Toi, aujourd'hui, es-tu prêt? C'est la dimension d'effort. Remarquez que Jésus n'a pas dit, « Sois guéri. » L'homme est là depuis 38 ans et Jésus lui dit, « Lève-toi. » Ça fait 38 ans que je suis là. « Lève-toi. Prends ton lit. Roule ton lit. » Et marche. C'est sûr que ça a dû être pénible, ça a dû être difficile. Il y avait un appel à répondre, à faire quelque chose. Et moi, je suis là. Je suis le Dieu du miracle. Mais va, marche, fais quelques pas. Avance avec moi. Lorsque Jésus... Vous dites, ben oui, mais c'est absolument impossible après 38 ans. Oui. Mais lorsque Jésus va donner un commandement, il va donner le pouvoir de l'accomplir. L'obéissance va précéder la capacité. Alors la question, c'est qu'est-ce que tu réponds lorsque Jésus dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi de cette situation d'amertume, lève-toi de cette situation de déchirement, lève-toi de cette situation, lève-toi de là, lève-toi de cette carence dans ton comportement, lève-toi du dégât qui a été causé, lève-toi de ta honte, lève-toi, commence à, roule ton lit, commence à marcher, comment veux-tu être guéri, dimension d'excuse, dimension des excuses de hier, oh, c'est trop lourd ce qui est arrivé hier, c'est trop, je serai pas capable, demain, non, j'ai trop peur, plus tard, trop tard, la faute des autres, pas pour moi, non, toi, aujourd'hui, maintenant, face à Jésus, le miraculeux, il n'est pas dans des eaux mystiques extérieures, une piscine, coudon, change rien à ma vie, mais un jour, peut-être, m'ont roulé dedans. J'aimerais vous dire qu'il y a plein d'églises qui fonctionnent comme ça au Québec. On change rien, on ne se questionne pas, puis un jour, on va tomber dans la piscine du réveil. La parole de Dieu nous appelle à dire, « Je suis là, je suis le miraculeux, mais vas-tu répondre à mon appel? Veux-tu vraiment être guéri? » Quelqu'un devrait dire oui. Veux-tu être guéri? Des excuses, des efforts, l'entourage. Cet homme est devant le maître du miraculeux. Il est devant le maître du miraculeux. Mais attention, il y a des forces autour de lui. Il y a des gens qui sont résignés à leur condition et à la sienne. Des gens qui sont autour de toi, autour de moi, qui disent, « Toi, tu ne pourras jamais être autre chose que ça. Mon épouse ne pourra pas être autre chose que ça. Mon mari ne pourra pas être autre chose que ça. Mon fils ne pourra pas. » Résignés à leur condition. Il y avait autour de lui, il y avait devant lui le maître du miraculeux, mais il y avait des gens résignés à leur condition. Il y avait des gens qui remettent toujours la responsabilité sur d'autres. Entre le Dieu incarné, on a le Dieu incarné, il y a les doutes et les influences autour de nous. Il y a des gens autour de nous qui bombardent. Il y a l'ennemi lui-même qui fait ça à travers des gens. Résigné, il ne changera jamais. Remettre toujours la responsabilité à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que l'autre devrait faire? Qu'est-ce que l'autre? Les gens qui ont laissé l'ennemi réduire leur vie. Ça va être ça ta vie. Ça ne sera jamais autour de ça. Tout ce qu'il y a en moi crie aujourd'hui, tu es devant le maître du miraculeux. Ne réduis pas ta vie, ton couple, ton mariage, ton cœur, ton avenir, tes accomplissements, tes enfants, tes petits-enfants. Ne réduis pas ton existence au matelas que tu as connu jusqu'à maintenant. Lève-toi, marche, écoute, ouvre ton cœur, laisse-le t'appeler sur cet appel. Laisse-le et obéis à ce qu'il t'appelle à faire et vois comment, sur l'obéissance, il va donner la capacité divine de changer. Il y avait des gens, littéralement, non seulement des gens résignés, des gens qui étaient autour de lui, qui remettaient toujours la responsabilité sur d'autres, des gens qui acceptaient de se réduire ou de réduire quelqu'un d'autre à ce qu'il est seulement. Il y avait ceux qui refusaient catégoriquement la possibilité d'une guérison. Refusaient Jésus lui-même à cause de toutes leurs limitations, leur légalisme et leur aveuglement religieux. J'aimerais vous dire que les pires aveugles n'étaient pas autour de la piscine. Les pires aveugles étaient les religieux qui entouraient et qui suivaient Jésus. Parce que lorsque Jésus lui dit « Lève-toi, verset 8, et prends ton lit et marche », alors aussitôt l'homme fut guéri et il prit son lit et marcha. Je lis la dernière portion du texte. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est donc cet homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait même pas qui c'était. Il ne savait pas que c'était Jésus qui l'avait guéri. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Il lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. De ce verset-là, complètement ignorant le reste de la Bible, il y a eu tout un mouvement de fausseté à travers les siècles qui existe encore aujourd'hui pour dire que si quelqu'un est malade ou si quelqu'un a besoin, c'est parce qu'il y a du péché dans sa vie. Tournez quelques pages plus loin et dans Jean chapitre 9, ils amènent un aveugle et ils disent à Jésus, est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents? C'est pour ça qu'il est aveugle. Jésus dit, c'est pas lui qui a péché, c'est pas ses parents qui étaient aveugles. C'est afin que le Fils de Dieu puisse se glorifier. Il y a des cas où le comportement de quelqu'un, son péché, son égarement de Dieu va amener la maladie sur sa vie. Quelqu'un qui boit ou qui se gèle ou qui boit pendant 30 ans, ça va avoir un effet sur sa santé physique, son comportement va avoir un effet, mais ne soyez jamais de ceux qui disent à quelqu'un qui a besoin d'une guérison physique ou qui est malade ou qui a un enfant qui a une difficulté, c'est à cause du péché de quelqu'un dans ta vie. C'est pour ça que le texte enseigne du tout. Jésus va arriver et va guérir cet homme. Et regardez bien la réaction. Tu n'as pas le droit, toi, de prendre ton lit. C'est le jour du sabbat. Cet homme s'en alla, verset 15, annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Regarde bien comment c'est fou, le religieux. Comment il n'y a plus rien de plus méchant. Il n'y a rien de plus aveuglé, de plus sadique. Il n'y a rien de plus détruisant que des religieux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu et le cœur de Christ. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, mais moi aussi j'agis. Moi, je viens faire les œuvres de mon Père. » À cause de cela, à cause d'un homme guéri le jour du sabbat, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Et à partir de ce moment-là, c'est ça, c'est cet événement-là qui pousse et pousse. Ils n'ont jamais lâché jusqu'à la croix, l'amenant jusqu'à la crucifixion. Vous dites, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, ils sont fous comme ça? Le texte commence en disant, cette portion-là commence avec, c'est le sabbat, tu n'es pas permis d'emporter ton lit. Et c'est pourquoi les Juifs poussèrent Jésus, poursuivirent Jésus, le persécuteur, et voulaient le faire mourir à partir de ce moment-là. Des millénaires auparavant, Dieu avait institué un commandement biblique magnifique, un principe génial, un principe d'une profondeur magnifique, le principe du sabbat, le principe d'un repos, le septième jour, d'un repos du travail, d'un repos pour les terres, d'un repos pour les animaux, d'un repos, c'était un moment pour se tourner vers, tu arrêtes le travail, c'est un moment pour se tourner vers Dieu, un moment en famille, un moment de repos, de renouvellement, de rafraîchissement, il y a tellement de génies, on parle il y a des millénaires, et il y a plein d'historiens qui, à partir de ça, tu as la notion de pas toutes les autres peuples autour, les esclaves travaillaient 7 jours sur 7 jusqu'à temps qu'ils meurent par terre. Non, il y a une notion de respect pour la personne, une notion de famille, une notion de se recalibrer, de se refocaliser, une notion qu'à des millénaires plus tard, les agronomes ont découvert que si tu donnes un repos à la terre, elle va produire encore plus de fruits. C'était quelque chose de beau, c'était quelque chose dans la liberté afin de t'approcher de Dieu. C'est toi, toutes les sphères humaines en bénéficiaient. Toi, ton épouse, c'était le moment de l'amour, le moment de la famille, le moment du repos, le moment pour Dieu, le moment pour la louange, l'adoration, dans la liberté. Et le religieux en fait une loi, en fait quelque chose qui devient sinistre, en fait quelque chose qui devient complètement éloigné du cœur de Dieu. Il y avait la tradition écrite et ils avaient la loi orale. Et la loi orale, au moment où Jésus arrive, il y avait 39 activités différentes qui étaient devenues interdites. Toutes sortes d'affaires qui ont dit « ça c'est du travail ». Tu n'avais pas le droit de te regarder dans un miroir. Et on comprend que la minute qu'on regarde dans un miroir, on se dit « ouf, il y a de l'ouvrage là-dedans, il y a de l'ouvrage à faire ». Pas le droit dans un miroir. Tu n'avais pas le droit de transporter quelque chose qui était plus pesant que la valeur de 2 figues. C'était du travail. Tu n'avais pas le droit de soigner quelqu'un. Pas le droit de soigner quelqu'un, c'est du travail, si tu soignes quelqu'un. Il y a un historien qui écrit que lorsque les gens avaient vraiment mal aux dents à ce moment-là, ils se mettaient, les médecins leur mettaient du vinaigre et ça enlevait un petit peu de la douleur. Alors, il y a un historien qui parle du fait que t'as pas le droit de mettre, le médecin n'a pas le droit de te mettre du vinaigre, mais t'as le droit de manger. Fait que là, il mangeait puis il noyait sa bouffe de vinaigre afin d'aider sa dent. T'avais pas le droit de te déplacer plus que 1000 pas. Parce que sinon, tu avais quitté ta maison, ça, c'était du travail. Mais si la veille, tu avais été préparé un lunch, puis tu l'avais mis au 1001 pas, au 1001e pas, tu prenais ton lunch, puis c'était comme une nouvelle maison que tu avais, tu étais correct pour un autre 1000 pas. En 2019, aujourd'hui, lorsque tu vas en Israël, il y a plein de lois comme ça. Dans les hôtels de Jérusalem où je suis allé, j'ai vécu à chaque fois le Shabbat, du vendredi au samedi, les ascenseurs arrêtent. Parce que si tu pèses sur le bouton, c'est du travail. Mais monter 6 étages, c'est correct, par exemple. La loi, un légalisme qui permet à ceux qui disent « Moi, j'observe la loi de devenir en autorité, en domination sur d'autres. » La dynamique, littéralement, ne manquez pas ceci, en 2019. La dynamique, littéralement, qui fait qu'à travers notre conception, notre réduction de qui Jésus est, de qui Dieu est, on le réduit à des lois, te rend aveugle au maître du miraculeux. Jésus est venu, ils ne l'ont non seulement pas vu, mais ils n'ont pas reconnu, mais ils l'ont résisté, ils ont tout fait pour l'empêcher, ils sont venus à opposer ce que Jésus les appelait à faire, et leur loi était devenue maintenant complètement même contraire au commandement de Dieu. C'est assez intéressant que la Bible nous dit que cet homme vient et il ne savait pas qui il était. Il n'avait pas reconnu Jésus. Le principe de l'incarnation, c'est Dieu qui se fait homme. Lorsque vous avez carreau, c'est chair. Un carnivore mange de la chair. Mais l'incarnation, c'est Dieu, une théologie très simple, mais c'est Dieu, le Dieu du miraculeux, dans le corps d'un être humain. Cet homme-là, avait Dieu lui-même, le Dieu du miraculeux, devant lui, dans le corps humain que Jésus a pris en incarnation pour nous, et ne l'a pas reconnu. Encore aujourd'hui, vous pouvez être assis ici à l'Église et avoir des lois, des concepts, que ça c'est l'Église, puis ça c'est ma vie, ça c'est l'Église, c'est les chants, c'est la louange. Mais ce Dieu-là, là, il ne peut pas venir guérir mon mariage. Il ne peut pas venir changer mon conjoint, ma conjointe. Il ne peut pas venir transformer ça. Ça, il ne peut pas venir changer comment je me comporte. Il ne peut pas venir guérir ça. Il ne peut pas. Et tu peux complètement être aveugle au fait qu'à travers sa résurrection, voici comment Dieu opère. Jésus répand son esprit parmi son peuple. Il vit à l'intérieur d'êtres humains. Et Dieu se sert d'êtres humains pour venir apporter sa guérison les uns vers les autres. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, il dira à l'Église de Corinthe, « Le même esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts demeure en vous. Il vous redonnera la vie par l'esprit qui habite en vous. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? » Littéralement, la pensée, je vais m'inviter les musiciens à s'approcher, littéralement, la pensée que Dieu veut qu'on puisse venir à lui et enlever toutes les barrières. Les pharisiens avaient mis tellement de barrières que même lorsqu'ils guérissent, ils étaient en opposition à ce que Dieu voulait faire et avait fait. Mais ce matin, est-ce que nous pouvons demander, Seigneur, viens, en ce début de nouvelle année, tu es le maître du miraculeux. Et je veux enlever toute excuse. Je veux enlever, Seigneur, je suis prêt, entre guillemets, à faire l'effort. Je suis prêt à me lever et à marcher vers toi. Je suis prêt à aller, à obéir. Je suis prêt à changer. Savez-vous pourquoi est-ce que les gens qui... La réalité, là, veux-tu être guéri? Il y a plein de gens qui ne veulent pas être guéris. Parce que si j'osais répondre à Dieu, puis j'ai embarqué dans le chemin du changement avec lui, si j'osais lui demander de guérir mon mariage, mes relations, mon couple, ma vie, mes finances, mon futur, mes relations, ma dynamique, mon appel, Non, veux-tu être guéri? Oui, mais tout à coup que ça marche pas. Oui, mais faudrait que je change moi aussi. Oui, mais Dieu m'appellerait à changer. Oui, Mais ce matin, la voix de Dieu dit, « Veux-tu être guéri? » Il y a un moment, et le moment où le miraculeux prend place, c'est lorsque tu acceptes de dire, « Seigneur, je t'amène ma faiblesse. Je suis prêt à faire ce qu'il faut pour me lever, prendre mon lit et réapprendre à marcher avec toi. Je suis prêt à le faire. Je m'ouvre à toi et j'accepte que tu vas utiliser des êtres humains pour m'aider. » Que tu vas utiliser des hommes, des femmes remplis de l'Esprit de Dieu pour me parler. Que je vais aller chercher une aide. Je vais aller m'ouvrir. Je vais aller reconnaître mon besoin. Je vais faire la job. Je vais faire le boulot. Et surtout, je ne vais pas te limiter. Je ne vais pas dire c'est pour d'autres, mais pas pour moi. Je frémis à la pensée. Ce matin, c'est l'offre de Dieu. Comme cet homme, Jésus vient, puis il dit à chacun d'entre nous, dans une sphère ou une autre de notre vie, veux-tu être guéri? Veux-tu voir ma main agir en toi? Veux-tu te lever de ce lit sur lequel tu étais depuis si longtemps? Veux-tu ça finir l'année avec le témoignage que tu portes dans ta main, ce qui te liait auparavant, et tu as appris à marcher d'une nouvelle dimension avec moi? Veux-tu voir ce miraculeux arriver? Es-tu prêt à ouvrir ton cœur? Es-tu prêt à répondre? À la fin de l'année 2017, dernier message de l'année, j'ai prêché un message d'encouragement. Puis à la fin de la réunion, il y a un couple qui est venu me voir et ils m'ont dit, voulez-vous prier pour nous? On essayait d'avoir un enfant et puis on a tout passé les moyens humains possibles. Tout ce qui était possible d'être fait, on l'a fait, mais on n'a pas été capable. Et puis, on est dans un état, j'étais dans un état, la dame a dit, j'étais dans un état de découragement et d'amertume. Endurci contre Dieu, pourquoi? Et votre message ce matin me fait tellement de bien. J'étais consolé par le Seigneur, puis je veux me remettre à lui, puis je lui ai demandé. Alors, elle a dit, voulez-vous juste prier avec nous, pasteur, pour que la paix, qu'on finisse l'année, que Dieu libère mon cœur de l'amertume, etc. Et alors que je nous priais pour eux, c'est tellement touchant, je nous priais pour eux, la pensée qui est venue sur mon cœur, c'était, oui, je vais prier pour ça, mais est-ce que je peux prier pour que vous ayez un enfant? Et lorsque je lui ai dit ça, puis je comprends, là, il y avait eu tellement de chemin, il y avait eu tellement de choses, tellement d'affaires qui étaient arrivées, tellement de déceptions, tellement de... Et j'ai vu dans son visage comme juste une peur, là, tu sais, c'est... Et elle dit, oui, pasteur, priez. On a prié, puis j'ai prié avec Seigneur, je te prie, pour la guérison de leur cœur, pour la consolation, pour qu'ils ne se tournent pas contre toi, mais qu'ils marchent avec toi. On veut marcher avec toi, on veut avancer avec toi. Tu es leur consolateur. Et il y a un esprit de foi qui était sur moi. Et j'ai prié, Seigneur, je te prie aussi pour leur guérison. Je sais que tous les moyens humains ont été faits, tous les tests ont été faits. C'est comme une impossibilité humaine pour eux. Mais je prie aujourd'hui que tu puisses... Seigneur, dans ta volonté, leur donner un enfant, dans le nom de Jésus. Amen. On s'est pris dans les bras et on est parti. Le dernier dimanche de l'année 2018, à la fin de la réunion, ils sont venus me voir. Quelques mois après la prière, elle est tombée enceinte et a donné naissance à un enfant en parfaite santé. Ils sont ici ce matin, un an plus tard. Juste frémis à la pensée de... Combien de fois le Seigneur t'appelle toi et te dit, veux-tu être guéri? Veux-tu me laisser agir dans cette situation-là? Je sais qu'elle t'a fait mal, je sais que c'est terrible, je sais qu'il y a une partie de toi qui voudrait juste dire, touche-y pas, je veux juste, c'est fini. Veux-tu être guéri? Le maître du miraculeux est ici. Cette maison est la maison Bethesda. C'est la maison de la miséricorde, c'est la maison du pardon, c'est la maison de la bonté de Dieu manifestée. C'est la maison du miraculeux de Dieu. Et Jésus dit, voici, si tu veux être guéri. Si tu veux être guéri, il y a des choses que je vais faire surnaturellement que seulement moi, je peux faire. Il va y avoir des efforts à lesquels je vais t'appeler dans certains domaines de nos vies. Il va y avoir des efforts que tu vas avoir à apprendre à marcher maintenant. Tu vas avoir à apprendre à te relever après avoir été tendu là-dedans depuis tellement longtemps. Mais tu vas te relever et par la grâce de Dieu, tu vas finir l'année en m'offrant ce qui était le lit de ta souffrance, de ton impossibilité, le lit de ton découragement, le lit de ton amertume, le lit de la blessure que tu avais eue. Tu vas le lever devant moi. Je vais t'apprendre à marcher. Veux-tu être guéri? Moi, je veux te guérir. Je veux manifester ma gloire dans ta vie, dans le nom de Jésus. Ceux qui le reçoivent disent un grand amen et amen ce matin. Levons-nous ensemble en sa présence. J'aimerais qu'on puisse chanter. C'est pas seulement un chant. Ne partez pas tout de suite. Donnez-vous une minute ou deux. C'est pas seulement un chant, c'est vraiment l'expression du cœur qui reçoit du miraculeux. L'équipe d'adoration va commencer à prier ce chant qui dit « Seigneur, donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué.
Fais ce que tu veux de ma vie. Et ça, c'est une prière tellement puissante. Viens guérir ce que tu veux guérir dans ma vie. Viens guérir ce que tu veux guérir dans la vie de la personne que j'aime, ou de la personne qui m'a fait du mal, ou de la personne, la situation que je croyais irrémédiable, la situation que je croyais irréversible. Seigneur mon Dieu, viens guérir ma vie. J'aime offrir à toi l'appel. Est très simple ce matin. Si vous êtes ici, dans sa maison, ou par milliers, par Facebook Live, ou qui vont télécharger le message, ou par multisite, vous êtes ici ce matin et vous dites oui. Seigneur, je ne vais pas te limiter. Je ne veux pas te limiter comme ces pharisiens qui t'avaient limité à une série de lois qui ont complètement éteint ton cœur. Alors ce matin, Seigneur Dieu, je ne veux pas te limiter. Si vous êtes ici, vous avez l'audace spirituelle de dire, Seigneur, je ne veux pas te limiter. Viens guérir tout ce que tu dois guérir dans ma vie. Voulez-vous tendre vos cœurs, vos mains vers lui, puis lui offrir. Comme si vous le preniez, puis vous l'offriez à Dieu, littéralement. Seigneur, je ne veux pas te limiter. Seigneur, j'ai besoin de miracles. J'ai besoin de miracles dans mon couple. J'ai besoin de miracles dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon corps, dans quelqu'un près de moi, dans ma famille, dans mes enfants. J'ai besoin de miracles de relationnels. J'ai besoin de miracles comme cette jeune fille qui a témoigné ce matin face à la panique, face à l'angoisse. J'ai besoin de miracles. Vous tendez vos mains vers lui et commencez à lui dire, Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. Ton amour est fort. Il brise les chaînes. Seigneur, il y a rien qui te freine. Seigneur, tu as tout donné pour que j'aie la vie. Alors me voici, je m'offre à toi. Il y a une faiblesse en moi comme cet homme. Lorsque nous étions sans force, Christ est venu et il nous a sauvés. Seigneur, je suis sans force dans ce domaine-là de ma vie. Je ne suis pas capable dans ce domaine-là et je te l'admets. Mais Seigneur, je viens, moi le sans force, je viens devant toi le Tout-Puissant. Moi qui dans cette misère, je viens devant le roi, le chef du miraculeux. Je te demande de me donner tes yeux, ton cœur, des choses extraordinaires. Le miraculeux a pris place parce que Jésus a regardé cet homme comme lui seul peut regarder. Le miraculeux prend place dans des mariages, dans des couples, dans des familles, lorsqu'on apprend à regarder. Seigneur, donne-moi tes yeux pour l'autre personne. Donne-moi tes yeux pour ma situation. Donne-moi tes yeux pour ce que je vis, ce que je traverse en ce moment. Mais Seigneur, je ne vais pas te limiter. Oui, je veux être guéri. Viens faire un miracle en moi dans le nom de Jésus. Qu'on peut tendre nos mains vers Dieu. Donne-moi un cœur tout entier.